Donc chacun pensait au 25 décembre, je ne sais pas pourquoi. Et il y avait notamment trois personnes. Le premier était intérieurement dans l'agitation. Il se disait, la naissance de Jésus, ça n'a pas pu avoir lieu le 25 décembre. Les troupeaux de moutons ne sont pas dehors en décembre, même en Palestine. Et déjà dans l'Antiquité, en fait, plusieurs parlaient du 18 novembre et d'autres du 25 mars. Voilà. Et un texte chrétien du 3e siècle relève que c'était les païens qui célébraient des anniversaires et qu'un vrai chrétien ne fait pas ça. Alors célébrer la naissance de Jésus, se disait-il, c'est d'une part s'écarter de la vérité historique, et pire encore, de la Bible, de la parole de Dieu. Jésus ne nous a pas demandé de célébrer sa naissance. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu comme ça, est-ce qu'il n'est pas étonnant que ni l'évangile de Marc, ni l'évangile de Jean ne nous raconte la naissance de Jésus. Si ça compte tant, se disait-il, comment est-ce qu'ils auraient pu laisser ça de côté? Les seules choses que Jésus nous a demandé de faire, comme acte, comme rite, j'entends, rite entre guillemets, c'est de partager la scène et c'est de baptiser ceux qui croiraient en lui. Donc Noël, se disait-il, n'a de chrétien que le nom. C'est une fête païenne, même, que l'on a voulu baptiser. Bref, le bœuf et l'âne gris, c'est un peu le retour du veau d'or. Alors les bougies, les guirlandes, et même les cadeaux. Et nul doute que s'il avait eu la parole ce jour-là, il aurait ou bien insisté avec une tonalité militante, sur le fait que Jésus ne veut pas que ses disciples aillent, 1 Corinthiens 4, au-delà de ce qui est écrit. Ou bien il aurait parlé de tout, sauf de Noël. Et en somme, pour lui, il faut que Noël, comme fête chrétienne, disparaisse. Vous comprenez, j'imagine, combien cette personne pouvait être agitée, surtout au milieu de tout ça. Première personne. La seconde aurait pu en partie comprendre la première. La vérité historique, pour autant qu'on puisse la reconstituer, c'est qu'en effet, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Historiquement, on le sait bien. Et oui, c'est vrai, ce qui compte, c'est la Bible. C'est ce qu'elle commande. Est-ce que le 25 décembre, c'est une reprise d'une fête païenne ? Ça, par contre, ça ne va pas du tout de soi, en fait. On le dit très, très communément, mais c'est pas gagné. Les historiens en discutent. Mais bon, se disait-il, même si c'était le cas, supposons, même si c'était le cas, se disait-il, cet héritage-là, il a complètement disparu. Et puis, d'autre part, on le sait, les héritages que nous avons ne sont pas forcément si contaminants que nous pouvons le craindre. C'est pas parce que le boulanger est athée ou que le boulanger est bouddhiste qu'on arrête de lui acheter du pain. Le fait de manger du couscous ne transforme pas ceux qui le mangent en musulmans. Et la deuxième personne, au contraire, du coup, en se disant tout ça, elle appellerait à se réjouir de voir dans le calendrier républicain cette trace qui a traversé les siècles, cette trace de l'événement Jésus. Parce que ça n'allait pas de soi au départ. Et il verrait là une victoire historique qui aujourd'hui encore renvoie ceux de l'Orient, de l'Occident, ceux de tous les hommes, toutes les femmes, à une date qui rappelle la naissance de Jésus. Et ça, c'est important. Oui, dirait cette personne, la Bible ne nous demande pas de célébrer ça. Mais pour autant, elle ne nous interdit pas de le faire. Petite parenthèse, c'est frappant comme on peut avoir des comportements chrétiens qui qui vont d'un côté et de l'autre, entre ceux qui ne font que ce que la Bible demande de faire et ceux qui font tout ce que la Bible n'interdit pas de faire. Qui aurait pu venir en voiture ce matin s'il ne faisait que ce que la Bible demande de faire? Donc la Bible ne nous demande pas de célébrer le 25 Noël, la naissance de Jésus, mais pour autant elle ne nous interdit pas de le faire. Au contraire, saisissons l'occasion. C'est dans le calendrier républicain. Mettons en valeur devant nos contemporains l'important, à savoir que Jésus, Yeshua, Dieu sauve. Jésus est né et venu dans le monde pour sauver le monde. Ça, c'est important. Et ça, c'est le vrai sens de Noël. Et ce qu'il faut critiquer, c'est le dévoiement républicain du vrai sens de la fête. Cette débauche de cadeaux, d'huîtres, de foie gras, de dinde. Pour les animaux, c'est pas Noël, hein. Ce qui est d'actualité, c'est pas tellement d'alerter par rapport au paganisme du passé, mais c'est le paganisme du présent devant lequel il s'agit de mettre en garde. Dieu est en colère quand on l'oublie aujourd'hui, quand il disparaît sous un festif qui oublie le vrai sens de Noël. Et Piem le croque très bien dans un dessin peut-être un peu ou beaucoup irrévérencieux, j'en sais rien. Il y a beaucoup de dessins comme ça, on voit cette petite dame, mais avec une légende, voilà, que je vous lis, parce que si vous avez une aussi bonne vue que moi, ça va être difficile. Donc elle dit, j'osais à peine entrer, car j'imagine votre humeur, elle parle à Dieu, hein. J'imagine votre humeur en cette période de fête, cette débauche de foie gras, de champagne, ces ripailles, et cette commercialisation éhontée doivent déclencher chez vous une effroyable colère cosmique. Un irrépressible désir d'envoyer ici-bas, dans un vacarme étourdissant, vos armées célestes, dans un déluge apocalyptique de fureur, de fracas et de feu. Je reviendrai demain, quand vous serez calmés. En somme, pour notre deuxième ami, eh bien, il faut sauver Noël. En Église, dénoncer les écarts, et célébrer Jésus. Deuxième personne. Et puis il y avait un troisième personnage. Lui aussi pouvait sympathiser au moins en partie avec la personne précédente, avec cet accent sur Jésus. Et en même temps, il était sensible aussi à une certaine façon de parler, à une certaine façon de militer, d'affirmer. Il était soucieux de cette posture qui pourrait se dire parfois « je sais mieux que toi ». Cette posture de donneur de leçons, adressée à ceux qui ne sont simplement pas croyants, ou pas encore, et pour qui ce qui compte, eux, c'est de se retrouver en famille, simplement, avec leurs proches, surtout en cette période où c'est pas facile. L'an dernier, c'était bien plus contraint que ça. Et ces personnes, du coup, que les discours, que les propos, les longs propos, les longues insistances, que les militances lassent. Est-ce que c'est fécond de critiquer? Est-ce que c'est fécond de reprocher aux autres de ne pas être chrétien? Ou de ne pas l'être comme nous pensons qu'il faut l'être? Est-ce que c'est fécond? Est-ce que c'est toujours fécond? Lui, par contre, le récit de Noël, il lui faisait toucher du doigt ce qui lui semblait parler bien plus que des discours. Ce qui se donne à voir dans la venue de l'homme Dieu, la discrétion, l'humilité, la venue dans la faiblesse. Comme je reprends des paroles de certains chants, dans l'étable misérable, entre le bœuf et l'âne gris. Peut-être comme donc le chant de certains cantiques, dans une étable. Jésus qui se fait pauvre parmi les pauvres, pour que de sa pauvreté nous soyons tous enrichis. Et du coup, il dirait Noël, eh bien c'est Jésus qui vient, c'est Dieu qui se fait tout petit. Et il s'agit plutôt, pour le peuple chrétien aujourd'hui de témoigner de l'attention pour le petit, pour l'affamé, pour l'étranger, pour le méprisé, le miséreux, l'affamé, l'assoiffé, celui qui est nu, celui qui est en prison, celui qui est à l'hôpital, tant les actes parlent plus que les paroles. En Christ, Dieu se fait pauvre pour vaincre notre misère et nous appelle à le suivre sur ce chemin de pauvreté pour que nous apprenions avec lui à être artisans de paix, de justice et à combattre toute misère. Je greffe sur cette personne un exemple personnel. Que va dire de ton discours sur le vrai sens de Noël, cet unijambiste qui traversait la place Carnot la semaine dernière, au moment même où se faisait entendre le refrain de « Petit Papa Noël, n'oublie pas mon petit soulier ». Alors ouvre tes bras, ouvre ton cœur, ouvre la porte de ton foyer, ouvre ton porte-monnaie. N'ampute pas, si j'ose dire, un discours militant. N'ampute pas par un discours militant qui n'intéresse peut-être pas grand monde, un fer qui parlerait à tout le monde bien plus qu'un dire. Et donc, en somme, pour cette troisième personne, il ne faudrait peut-être pas tant sauver Noël que laisser Noël nous inspirer, marcher dans les pas d'un Dieu qui se fait tout petit. Alors, trois personnes, et bien sûr on pourrait en mentionner d'autres, plus brièvement celui ou celle qui soulignerait que le Fils est venu, oui, dans la pauvreté, mais c'est là davantage un fait que l'essence du christianisme, que le cœur du christianisme, et que la Bible met bien davantage en valeur l'accomplissement d'une promesse. Ou bien celui ou celle qui n'a peut-être pas envie, le lendemain de Noël, de se poser tout un tas de questions. Zut, quoi, ras-le-bol. Ou bien d'autres encore. Alors, de mon côté, bien, il se trouve que j'ai envie de dire d'abord, je vais dire plusieurs choses, et d'abord que ces trois, ces quatre ou ces cinq personnes, je ne sais pas pour vous, mais pour ce qui me concerne, je les ai rencontrées. Et probablement vous aussi, au cours de votre cheminement chrétien. Je me dis qu'elles nous sont probablement à tous assez familières, les unes comme les autres, aux uns et aux autres. Elles sont peut-être là parmi nous, mais même si elles ne l'étaient pas, ou pas comme je les ai décrites, elles nous sont familières. Je voudrais dire aussi que ces personnes, elles ont aussi, il me semble, beaucoup en commun. Étonnamment. J'ai souligné la différence, j'ai accentué. Mais elles ont en commun, elles ont déjà peut-être le fait très prosaïque que Noël, que le fait que Noël soit ou non une fête païenne, ben Noël nous donne quand même un jour férié. Et s'il y a bien quelque chose qu'à ma connaissance, personne, chrétien ou non, reprochera au christianisme, c'est bien ça, Noël nous donne un jour férié. Alors je sais, cette année, pas de chance, ça tombe à samedi, mais bon, elles ont aussi en commun, je passe à un registre un peu plus sérieux, surtout le fait qu'elles se trouvent, les unes et les autres, des héritières de certaines lignes bibliques. C'est au nom de la Bible, en fait, qu'elles adoptent chacune leur perspective. C'est d'elles qu'elles se veulent, qu'elles se pensent nourries. C'est dans la Bible qu'elles pensent retrouver leurs sources, les racines de leur posture, de leur discours, de leur inspiration. Je crois qu'en fait, chacune nous met devant des enjeux qui traversent la question de Noël. Je me sers de Noël pour l'illustrer, mais on pourrait l'illustrer sur bien d'autres questions, avec des mêmes croyants qui viennent avec des héritages communs et qui ont des attitudes diverses, chacune, je crois, pose des questions qui comptent. Des questions comme celle de la façon dont la foi chrétienne peut influencer, peut bouleverser une culture. Parce que de fait, le christianisme, au départ, c'était un mouvement obscur. Et il a gagné tout l'Occident, et plus que l'Occident. Il a marqué son histoire jusqu'au point de lui donner des valeurs, au-delà des fêtes, des valeurs. C'était quand même une culture à l'époque où on abandonnait les nouveau-nés à l'extérieur, avant de les déposer à la porte des églises. Et maintenant, en Occident, a priori, on n'abandonne pas les nouveau-nés. Enfin, ou si on le fait, c'est une indignation. Alors qu'à l'époque, ce n'en était pas une. La façon dont la foi influence une culture et la façon dont la culture peut réciproquement influencer la foi, peut la bousculer avec aujourd'hui une certaine victoire de la sécularisation en Occident. Et du coup, comment est-ce qu'il est légitime de réagir, de se positionner devant tout cela, au milieu de tout cela? Autre question, qu'est-ce qui est tolérable? Enfin, c'est la même. D'une certaine façon, qu'est-ce qui est tolérable de la culture humaine? Qu'est-ce qu'on peut accueillir comme chrétien de la culture humaine? Et qu'est-ce qui est menaçant? Et puis on peut poser d'autres questions, mais je suis dans le registre du discours en disant ça, du débat d'idées. Mais au-delà des mots, il y a toute cette façon dont nous agissons. Cette façon dont, en tant que croyants, si nous sommes croyants, nous sommes au monde. La façon dont nous parlons de Noël, dont nous parlons des autres, dont nous les respectons ou non, et au moment même où nous leur parlons de Noël. Ces trois personnes, me dis-je aussi, elles nous disent en fait tout le mouvement de l'histoire chrétienne. Le moment initial de lutte face à une culture qui ne voulait pas du christianisme, et où il a fallu lutter, et il a fallu dénoncer les idoles, résister aux idoles, repousser les idoles, repousser tout ce qui était de l'ordre du paganisme. Un autre moment où l'effort a plutôt été de ne pas s'arrêter sur ce qui paraissait maintenant peut-être périphérique, mais essayer de tenter, voilà, de distinguer, de retenir l'essentiel, ce qui compte vraiment, et ce qui n'a pas tant d'importance. Et puis des moments aussi où on a préféré chercher à être plutôt qu'à analyser ou qu'à donner des leçons, des discours. Je me dis aussi, c'est un peu autre chose, mais que ces trois personnes, pour moi en tout cas, de mon point de vue, il me semble qu'elles peuvent nous être familières parce que nous les retrouvons aujourd'hui. Et peut-être si c'est cela qui nous trouble, en tout cas c'est quelque chose qui me trouble moi personnellement, parce que nous les retrouvons au moins un peu au fond de chacun, peut-être d'entre nous. Peut-être à différents moments de notre vie chrétienne. Ce moment où, parce que nous avons été bouleversés par Jésus, où nous sommes partis pour détruire les idoles, pas de compromis. T'es à bord ou t'es pas à bord, c'est pas possible. Ou bien le moment où nous entreprenons de revenir un peu sur une posture très, très raide, si je puis dire, et nous entreprenons finalement de défendre l'essentiel et de moins être insistant sur d'autres aspects. Et puis ces moments où nous mesurons que nos mots comptent souvent moins que les actes, aux yeux en tout cas de nos contemporains. Et je me dis que ces trois personnes, quelque chose de leur héritage, travaille ou peut travailler encore en nous, en moi. Et j'entends à moi-même que ça peut être déroutant pour moi-même, et en même temps je crois qu'il est bon de se laisser encore travailler. Et peut-être, du coup, nous avons moins à sauver quelque chose qu'à nous laisser sauver, en nous laissant interpeller par les différents aspects, les différents courants de l'héritage biblique. Cette idée d'héritage, l'apôtre Paul la mentionne au seul moment où il évoque la naissance de Jésus. Lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils, né d'une femme. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils et ses filles. Puisque vous êtes bien ses fils et ses filles, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Héritier de Dieu, héritier du Dieu qui travaille notre histoire collective et notre histoire individuelle, héritier des appels de l'Écriture. En amont de ces trois personnes, nous sommes renvoyés à la source qui les alimente, et j'ai envie de dire, nous sommes renvoyés à celui qui est la source, qui alimente cette source. Car il faut bien être quelqu'un quand même de singulier pour marquer encore l'histoire du monde 2000 ans plus tard. Pour être à la fois une force d'appel et une force de rupture même entre personnes à ce point-là. Qui est l'homme qui a pu avoir une telle postérité, une telle marque sur la culture humaine, une telle marque sur le calendrier lui-même? Qui est cet homme qui est capable d'inspirer des attitudes, des postures qui sont à certains égards si différentes, si paradoxales, si étonnantes et si communes? À la fois la radicalité la plus forte et l'humilité, la discrétion la plus grande. Qui est cet homme qui est capable de faire crier de joie un groupe de bergers dans la nuit, paumés dans la campagne, dans la cambrousse, dans la brousse? Qui est cet homme qui est capable de faire venir des sages, des savants du bout du monde? Qui est cet homme qui est capable de faire trembler des rois au point qu'ils soient prêts à tout pour le massacrer? Qui est cet homme capable de bouleverser un homme âgé, une femme âgée, alors qu'ils sont au temple de Jérusalem? Qui est-il ce rabbin? Qui est-il ce thaumaturge, ce faiseur de miracles? Qui est-il ce condamné à mort pour avoir à ce point marqué le cours de l'histoire humaine, le flot de la culture humaine? Et j'ai envie de prier que Dieu, que Jésus nous porte dans la fermeté, dans la radicalité de l'attachement à lui. Que Jésus nous donne la sagesse de distinguer l'essentiel et de nous attacher à l'essentiel. Que Jésus nous donne de vivre comme il a vécu, une manière qui constitue à notre échelle une certaine force d'appel et d'espérance pour tout notre entourage. Je vous invite à un moment de silence. Et je vous propose de prier, en chanter, en prier.